Alors là, on va aborder le cas de deux autres pays où les choses ne se passent malheureusement pas comme en Tunisie et en Égypte, en tout cas pour l'instant. Raissa Mana, pour la Syrie, qu'est-ce qui drive ces gens qui sortent dans la rue tout en sachant qu'ils risquent de se faire tuer ?
Bonsoir. D'abord, j'aimerais bien dire un mot comment c'est arrivé jusqu'à nous. Parce que moi, je crois que c'est grâce à la Tunisie et à l'Égypte que nous sommes entrés dans le jeu très rapidement. Et s'il n'y avait pas, les religieux disent qu'avec si commence le travail de Satan, mais s'il n'y avait pas l'Égypte et la Tunisie, je ne sais pas où on est aujourd'hui. Parce que l'année 2010 était une année très triste. Dans l'ensemble du monde arabe, on avait à peu près 72 000 prisonniers dans les pays arabes. C'est-à-dire qu'on a eu droit à 14 000 prisonniers de plus que 2009. On a eu droit aussi à plus de 8 000 interdictions de voyage pour les cadres et pour les militants politiques ou les militants de la société civile. C'est-à-dire, vraiment, on a eu droit à tout ce qui peut faire étouffer le mouvement social. Et pour cela, nous, en Syrie, par exemple, depuis l'assassinat, si on peut dire, de printemps de Damas, juste avant le 11 septembre, parce que le dernier arrêté des militants de printemps de Damas était Arif Dalila, est arrêté le 9 septembre, deux jours avant, le 11 septembre 2001. C'est par une décision de sécurité locale et interne que le pouvoir a décidé de mettre fin à toute ouverture politique. Et à cause de la complexité de la situation qui a suivi, la mondialisation de l'état d'urgence, traiter tout ce qui est exceptionnel comme normal, la déclaration de l'état d'urgence dans plus de 28 pays dans le monde, et des lois qui dépassent 42 pays, et lois contre le terrorisme, la situation syrienne est devenue banale. Elle faisait partie d'une situation qui se ressemble à elle dans plusieurs pays de tiers-monde. Et pour cela, il y avait ce qu'on appelle la période de partage de peur en 2003 avec l'occupation de l'Irak, où le pouvoir avait autant de peur que le peuple. Mais ça s'est passé. Ça s'est passé à cause de la sensibilité de la question nationale en Syrie. En Syrie, s'il y a quelque chose qui réunit les gens, c'est la question nationale plus que la question d'identité religieuse. Pour cela, on avait une forte majorité syrienne, politique et non partisane à la fois, contre l'occupation de l'Irak. Ce qui a donné au pouvoir, qui a pris position contre l'occupation de l'Irak, une certaine, entre deux guillemets, légitimité nationaliste, autoritaire. Et ça a calmé un petit peu la situation avec des promesses de congrès de parti basse pour un changement. Mais la situation n'a pas changé. Après l'assassinat de Hariri, il y avait durcissement. Et on peut dire que les autorités syriennes ont bien mené d'une façon stricte et interne à eux, le retrait du Liban avec la reconstruction des alliances régionales et d'une façon ou d'une autre, ils ont dépassé le risque de l'histoire de Hariri. Et avec cela, il y avait reprise de répression à l'égard de tous ceux qui ont revendiqué pendant ce temps-là des libertés démocratiques à l'échelle nationale en Syrie. Alors là, vraiment, on est arrivé, la déclaration de Damas est dispersée, la gauche est dispersée, on est tous affaiblis, on a des militants en prison de la société civile et de la société politique. Et dans une situation pareille, on regarde devant nous où le désespoir vraiment règne au niveau de ce qu'on peut appeler la classe politique traditionnaliste ou traditionnelle. Et on regarde, on voit un type qui fait brûler le monde, comme on dit chez nous, de l'eau à l'eau, de l'océan jusqu'au golfe. C'est la Tunisie qui a bougé. Mais la Syrie n'a pas bougé après la Tunisie. On est resté devant la télé, regarder, admirer l'expérience tunisienne. Les gens m'ont contacté parce que j'ai beaucoup d'amitié avec le peuple tunisien, me demander des détails, des trucs, mais sans dire que c'est à nous après. On a commencé sérieusement à évoquer le changement démocratique après l'Égypte. Et c'est pour ça que, en Syrie, par exemple, le Facebook n'a pas marché. Le Facebook a demandé une journée de colère le 4 et le 5 février. Il n'y avait même pas 10 personnes qui ont répondu favorablement. Il y avait, après le 12 mars, il y avait 15 personnes qui ont répondu. Et la date, vraiment, de départ n'était pas programmée par Facebook ou médias ou partis politiques. Le 18 mars était une date programmée par les jeunes et essentiellement au sud du pays. Si on peut passer, on peut parler de trois univers pour comprendre l'expérience syrienne. Sinon, on passe complètement à côté. Et je crois que malheureusement, la plupart des gens, même dans le monde arabe, passent complètement à côté de ce qui nous arrive réellement. Il y a le monde, l'univers virtuel. On ouvre Facebook et on regarde la révolution syrienne, tel Cham, les jeunes de 17 avril, etc. On regarde certains sites et après on va voir où on est. Et ça, c'est ce que j'appelle la révolution virtuelle. Deuxième, c'est les médias. Les médias, un article qui a fait vraiment beaucoup de bruit, Nouvelle Obs et Le Monde, qui nous parle de ces cypernites, de ces grosses têtes qui sont en train d'organiser la révolte à partir de l'Europe et de Washington, avec des noms réels, mais qui n'ont rien à voir avec le pays. Et les gens qui militent, ils disent, mais qu'est-ce que racontent ces gens-là? Mais on ne les connaît même pas. Et la même chose à Al Jazeera, quand on a, par exemple, un témoin oculaire, Shahed Ayan, comme on dit en arabe, et ce Shahed Ayan qui n'est même pas sur le territoire syrien, qui parle de Riyad ou qui parle de Amman. On a eu vraiment des tragédies et des comédies pour présenter ce qui nous est arrivé. Et à cause de ça, on peut dire que la vérité est dans ce petit coin où les trois points se croisent là, dans tout ce qu'on entend. Et pour revenir à la réalité, il nous faut vraiment travailler à partir de zéro pour comprendre la situation actuelle en Syrie. Sinon, on passe complètement à côté. Pourquoi tout ça? Parce que le début était dans une région qui n'a pas vraiment des problèmes économiques clairs. De point de vue classe, lutte de classe, cette région est marginalisée par le pouvoir. Mais ils ont repris à leur propre compte la construction de leur région à travers l'émigration. Alors on a près de 30% de la population en Europe, dans les pays de Golfe, aux États-Unis, en Amérique latine, qui travaillent de cette région et qui envoient à leurs parents de l'argent. Pour cela, on ne peut pas parler de crise économique à proprement dit. Mais parce que c'est une région frontalière, on avait par exemple des lois comme loi 49 qui autorise chacun pour acheter une maison ou acheter un petit terrain d'avoir une autorisation d'un service de sécurité. Alors, on avait un type, cousin de président, responsable de la sécurité politique, qui prenait 20% de chaque opération, c'est-à-dire corruption et répression à la fois. Il fait les deux. Et ça fait bonne affaire, parce qu'il prend les Horani, les gens du Sud, pour des riches. Alors vous, vous avez des cousins dans le Golfe, vous avez des cousins au Koweït, aux Émirats, alors vous avez de l'argent. Alors là, vraiment, on a vécu 2-3 ans de répression, c'est-à-dire coalition, avec les mêmes personnes, entre corruption et despotisme politique. Et là, ça fait trop. Et troisième remarque, on avait un événement unique. Ils ont arrêté 24 enfants. Et ces 24 enfants ont écrit sur les murs « Al-Sha'b yurid isqat al-nizam », le peuple demande la chute du régime. Et là, ils ont arrêté les 24, le plus âgé à 14 ans. Et ils étaient torturés. Vraiment, moi j'ai vu leurs mains, ils ont arraché les ongles, ils ont vraiment fait trop de mal. Et moi, j'ai agi à l'époque devant le comité de l'enfant, de la Convention de l'enfant à l'ONU, groupe de travail sur la détention arbitraire, le rapporteur sur la torture, tous ces gens-là, ils ont interrogé le gouvernement syrien et le gouvernement syrien n'a pas répondu. L'habitude répond, ils n'ont pas répondu. Il y avait un entêtement que ces jeunes-là qui veulent faire entrer cette histoire de la révolution en Syrie, on doit donner l'exemple avec ces enfants. Et là, on était vraiment dans le choix de faire bouger les choses, et ça a bougé le 18, avec les jeunes qui ont organisé eux-mêmes, ils ont dit, vous, les grands, laissez tomber, on s'en occupe. Et ils ont fait descendre plus de 2400 personnes dans une grande manifestation. Et là, le pouvoir a perdu la tête parce qu'il y avait des barrages partout, il y avait la sécurité mobilisée. Comment ils ont réussi? Alors, ils ont envoyé les hélicoptères pour tout observer, ils ont tiré à balles réelles. Et malgré tout ça, ça n'a pas marché. Il y avait des martyrs de premier jour. Deuxième jour, pour enterrer les martyrs, il y avait 8000 personnes. Et ça a commencé. Ça y est, c'est terminé. Le Sud n'est plus sous les autorités. Les gens ont déclaré la levée de l'état d'urgence unilatéralement, de leur propre côté. On s'en fiche. Le pouvoir n'est plus. Il n'existe plus chez nous. Et là, cette mobilisation, on a commencé, nous, les intellectuels de la région, moi j'appartiens à cette région, on a commencé à donner un certain sens et culture civile à ce qu'on est en train de voir. Par exemple, l'aspect pacifiste, on insiste sur, c'est une résistance civile. Et nous, par exemple, dans cette région, on a l'habitude de prendre des pierres. Et l'être humain devient homme, comme on dit, quand il est capable de jeter vraiment une grande pierre, et très loin. Et là, il n'y avait pas de pierre, même pas de pierre. On était tous d'accord pour que tout soit pacifiste. C'est avec vraiment des jeunes qui n'en ont rien qu'on a réussi à faire avancer cette coupure avec la peur et l'idéologie de peur. Et là, on peut dire qu'il y a Horan, il y a 1 020 000, il y avait à peu près 1 million qui sont avec la révolte et 20 000 qui étaient, on dit nous, Awainia, c'est-à-dire qui travaillent pour le pouvoir, on s'en fiche, 20 000, c'est pas grave. Mais l'essentiel est là, on avait des salles dans chaque ville, et dans chaque ville, on avait, par exemple, on l'appelle Sahat al-Hurriya, la liberté, la dignité, Sahat al-Karama, et Sahat Shuhada, les martyrs, etc. Et chaque jour, on avait un rassemblement. au niveau des cités du sud, des villages et des villes du sud, chaque jour, on avait une discussion publique, le soir, sur les problèmes essentiels du pays. Et les gens venaient d'autres gouvernorats, ils venaient joindre les jeunes et la population dans ces manifestations. Le pouvoir a perdu la pédale. Et là, ils ont choisi la manière forte et ils ont décidé d'entrer avec des chars et d'assiéger. Il y avait une punition collective. Ils ont fait entrer deux divisions armées spéciales, des unités spéciales, et trois semaines de coupure, deux semaines de coupure d'eau, de nourriture, d'électricité et de médicaments. Et ils ont vraiment frappé très fort parce que uniquement dans cette région, on a plus de 500 martyrs, on a plus de 5000 prisonniers dans des prisons permanentes et temporaires. Et on a dans cette région au moins 2000 blessés, certains d'entre eux dans une situation grave. Et jusqu'à maintenant, Nawa est assiégée. Dara, les chars sont entre les maisons. Et la situation dans ce gouvernorat de Dara reste très précaire, la situation. Et on essaye de résister malgré tout ça. C'est élargi dans d'autres villes. Je suis désolé, je ne sais pas si vous voulez, j'arrête. On continue après ?
Oui, oui. Aux questions, parce que...
Oui. Maintenant, avec l'avancée, la stratégie de pouvoir a essayé de casser ces aspects positifs et attirants de la révolte du Sud à travers ce qu'on appelle le complot salafite, les intégristes, etc. On peut dire qu'au sud de la Syrie, c'est une région connue pour la tolérance parce qu'on est des chrétiens et des musulmans. Et on cohabite ensemble, on n'avait jamais eu des problèmes interconfessionnels. Et les deux ont participé, parce que le mosquée, l'Omari, il y a une partie bouffée. Les chrétiens venaient à la mosquée dans le bouffé, les musulmans faisaient la prière, et les laïcs aussi avec les chrétiens, dans le bouffé prenaient un café, et on sortait ensemble. C'était comme ça, tous les jours. Alors, il n'y avait pas un aspect de religiosité ou quoi que ce soit dans le mouvement civil et la résistance civile du Sud. Maintenant, quand on a attaqué et quand on a vraiment fait des problèmes à caractère confessionnel, à travers l'assassinat de certaines personnalités ou à travers le discours qui fait de ces gens-là des gens qui ont un caractère ou un aspect salafite. Certains salafites, c'est vrai, ont profité de la situation pour dire « nous sommes des salafites et on est fiers ». Et là, ces gens-là ont entré en conflit marginal avec le pouvoir, qui n'avait pas de la population qui le soutient. Et le conflit est terminé en deux jours, parce qu'ils ont arrêté ces gens-là. Mais ils ont continué à faire étouffer la révolte au nom de ce petit groupuscule. Et nous sommes maintenant dans une situation très vague parce que si on passe uniquement... Je prends 5 minutes et je...
Non, non, pas 5 minutes.
Non,
non. Et oui, parce que surtout l'échange avec le public et puis les autres invités doivent parler... Mais vous poursuivrez, on va vous poser des questions et vous aurez l'occasion de passer vos photographies.